Vous écoutez France Culture.
9h06 sur France Culture, c'est l'heure de retrouver la fabrique de l'histoire avec Emmanuel Laurentin. Bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour Nicolas, merci pour ces nouvelles. Le prochain journal de la rédaction sera, comme tous les jours, à 12h30 sur notre antenne. Et pour notre part, nous entamons une semaine sur l'histoire de Gaulois, des Gaulois avec Christian Goudineau aujourd'hui. Mais nous continuerons cette semaine avec une émission spéciale vendredi qui sera consacrée au grand historien Pierre Chaunu dont on vient d'apprendre la mort. Premier temps d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire, construite sur un autre modèle que nos séries habituelles. Nous allons en effet de temps en temps tenter de montrer comment un personnage, un événement, un phénomène historique ont été perçus et compris sur la très longue durée. Cette semaine, nous allons évoquer les Gaulois à l'occasion du 50e anniversaire de l'invention du personnage d'Astérix le Gaulois et de ses camarades. Jeudi d'ailleurs, vous pourrez écouter un documentaire d'Anaïs Quien et de Véronique Samouilov qui ont suivi la journée d'études organisée il y a une quinzaine de jours par l'Université de Paris 13 à Bobigny, là même où Uderzo dessina ses premières planches. Demain, nous nous poserons la question de l'émergence de la figure du Gaulois dans la France du XVIe siècle. Et mercredi, nous nous attacherons à la façon dont les historiens du XIXe siècle ont réinventé nos ancêtres. Ce matin, nous avons choisi de discuter avec Christian Goudineau, titulaire depuis 25 ans de la chaire des Antiquités nationales au Collège de France. Il nous dira comment la recherche historique et archéologique des 30 dernières années a profondément bouleversé notre connaissance de ce monde gaulois et débarrasser celui-ci de bien des idées fausses. Saisi de peur au milieu de ce désert et craignant en se dispersant de tomber dans quelques pièges, ils se rassemblent au forum et dans les rues environnantes. Là, ils trouvent les maisons des plébéiens fermées, celles des nobles ouvertes. Ils eurent plus d'hésitation à pénétrer dans celle-ci que dans celle-là, car ils se sentaient pris de respect en voyant assis sur le seuil de leur demeure des personnages que leur attitude, leur costume, leur air grave et solennel rendaient pareils à des dieux. Immobiles, ils les contemplaient tels des statues. D'après ce que l'on raconte, c'est Marcus Papirius, dont un Gaulois s'était permis de toucher la barbe, qu'il laissait pousser selon la mode du temps, qui, en frappant celui-ci sur la tête avec son bâton d'ivoire, déchaîna la fureur des Gaulois. Il fut le premier massacré. Après lui, tous les autres patriciens trouvés dans leur maison. L'extermination des nobles une fois achevée, personne ne fut épargné. Ensuite, on pilla les maisons et on y mit le feu. Voilà comment Tite-Live, dans le livre 5, raconte le siège de Rome par les Gaulois, cette apparition brusque dans l'histoire de Rome des Gaulois, en 390 avant Jésus-Christ. C'est cela, Christian Goudineau, bonjour.
Bonjour. Merci de m'avoir invité à la Fabrique de l'Histoire.
Merci
d'avoir accepté. Là, on voit l'histoire fabriquée.
Et ce sera en plus le thème de cette semaine, justement, que de travailler sur les différentes visions des Gaulois. Alors là, on voit la vision des Gaulois par un historien tardif qui raconte évidemment des événements qui se sont passés bien auparavant. Et ces événements ont profondément marqué Rome. Et c'est aussi, ce sont ces événements, cette arrivée brusque des Gaulois dans Rome qui, d'un seul coup, font émerger ce thème du Gaulois dans l'histoire, Christian Goudineau.
Oui, alors ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on peut mettre en doute beaucoup de traits par rapport à la véracité historique. C'est-à-dire, c'est constitué très rapidement à partir d'événements qui ont été effectivement des migrations de Gaulois, enfin de Celtes, on reviendra peut-être sur la distinction, vers l'Italie, des récits terrifiants. Et ces récits terrifiants, c'est le topos habituel dans l'Antiquité, le civilisé, le grec ou le romain, par rapport aux barbares. Et donc, Il faut se mettre dans la peau d'un petit Romain, disons du 1er siècle avant Jésus-Christ, celui qui sera peut-être un soldat avec César, auquel on apprend qu'il y a des gens absolument féroces, qui sont très grands, qui sont très différents, qui poussent des cris inarticulés, et qui sont capables de vous trancher la gorge, qui ne se contrôlent pas, qui sont souvent sous l'empire de l'alcool, etc., etc. Et il faut partir de là, je pense, pour comprendre les récits et même certaines descriptions de type, on dira, ethnographique, que l'Antiquité nous a transmis des Gaulois.
Alors, il faut savoir, et on le racontera toute cette semaine avec nos autres invités, Christian Gounineau, qu'évidemment, le savoir sur les Gaulois est un savoir extrêmement limité par le nombre de textes qui en parlent, une poignée de textes, pourrait-on dire, hormis celui de Jules César, bien entendu, au moment de la guerre des Gaules, qui évoque ces Gaulois avant, justement, la conquête romaine. Et donc, très peu de textes. Et donc, ça veut dire que depuis des siècles et des siècles, c'est sur ces textes-là que, jusqu'à maintenant, on s'appuyait pour pouvoir comprendre ce qu'était la Gaule et les Gaulois, Christian Gounineau.
Oui, c'est tout à fait ça. Si l'on va rechercher les textes les plus anciens, ce serait grosso modo à l'époque de Platon qu'on commence véritablement à dire qu'il y a des Celtes qui ont tel ou tel trait, même si on en avait parlé un petit peu avant. Le grand récit sur lequel, en partie d'ailleurs, s'appuiera César, parce que ça peut nous paraître bizarre, mais dans ses propres commentaires, il reprend des traditions qui sont des traditions, les topoi littéraires. Bon. Donc le grand récit, il est écrit par un personnage absolument étonnant qui s'appelle Poséidonios. Poséidonios, donc, c'est un grec d'Asie mineure qui a des curiosités de toutes sortes, qui est un grand philosophe. Hein, il va être à la tête de l'école stoïcienne. Il va voyager, il va écrire des livres sur l'océan, sur les climats, et il a écrit un livre sur les Celtes parce que nous savons qu'il est venu dans ce que nous appelons la Gaule. Mmh. On sait par un de ses imitateurs ou de ses épigones qu'il avait, par exemple, séjourné chez un Massaliote qui s'appelle Carmolaos. On a même le nom. Oui, et donc, il y a un récit qui est un récit ethnographique, d'une certaine manière, qui décrit une situation qui serait une situation aux alentours de 100 avant Jésus-Christ. Mais là encore, elle décrit relativement rapidement. Et comme nous faisons tous aujourd'hui encore, on retient un certain nombre de traits. Et on a du mal à s'en détacher. Je ne dirais pas qu'on voit toujours les Écossais avec un kilt ou un Brésilien avec une mandoline ou en train de danser la samba. Mais il y a quelque chose qui traîne. Donc, les clichés dont on a parlé tout à l'heure avec Tite-Live et le sac de Rome, d'autres clichés sur le fait que les Gaulois, étant mal civilisés, se livrent plutôt à la guerre alors qu'il ferait mieux de cultiver la terre. Bon, tout ça, ça s'est constitué au fil des consciences, ça se sédimente, on l'apprend aux enfants, et voilà.
Et c'est difficile de s'en détacher. Et c'est d'autant plus difficile de s'en détacher, Christian Gounineau, qu'effectivement, ce corpus de textes, étant donné la fascination qu'a pu avoir ensuite, à partir de la Renaissance au moins, l'Europe de l'humanisme, oui, pour Rome, effectivement, ce corpus de textes sert d'appui, justement, bien de sûr. Base, pendant très longtemps, pour l'apprentissage de ce qu'étaient véritablement les Gaulois. Et il n'est pas vraiment mis en discussion ou en débat. Il y a bien des travaux d'historiographes qui décident que peut-être ici ou peut-être là, César ou les autres ont été un peu rapides en jugement. Mais néanmoins, il n'est pas remis en débat. Il faudrait attendre, et c'est pour ça que c'est très intéressant de vous avoir à notre micro, il faut attendre, mettons, la fin du XXe siècle pour que, en particulier grâce aux travaux archéologiques, aux grandes missions archéologiques qui sont liées à tous ces travaux sur le territoire national qui sont faits grâce aux fouilles de sauvetage, en particulier à partir du début des années 80, eh bien, on redécouvre, pourrait-on dire, la Gaule et les Gaulois. Redécouvre-t-on d'ailleurs la Gaule? On n'en est pas sûr, Christian Gounineau, parce que cette Gaule, évidemment, c'est une construction.
Oh là là, ça fait beaucoup de questions à la fois.
Allez-y,
alors, je commencerai par dire que ce n'est pas seulement grâce à l'archéologie qu'on redécouvre la Gaule et les Gaulois, on va revenir sur la notion, c'est parce qu'on s'est débarrassé la tête d'un certain nombre de choses qui polluaient notre vision et qui nous mettaient, au fond, en complicité avec les historiens antiques. Et c'était quoi ? C'était l'opposition entre Français et Allemands. Et c'était aussi notre rôle de colonisateur.
On en parlera dans les émissions futures de la semaine.
Voilà, vous en parlerez. Voilà. Mais moi, je dirais que le déclic, quand même, il est parti de là. Alors, c'est parce que nous avons compris que nous vivions sur ces clichés qu'on était prêts, finalement, à accueillir avec les yeux ouverts des réalités qui autrement auraient été peut-être escamotées ou auraient dérangé.
Ça veut dire qu'il n'y a pas simplement ces découvertes archéologiques dont on va parler avec vous, Christian Goudineau. Il y a la numismatique, il y a également la relecture des textes antiques, mais à nouveau frais, là, vraiment, en se lavant les yeux de cette accumulation de clichés qui ont pu être mis en place après la période romaine et entre la période romaine et aujourd'hui, Christian Bonnier.
Mais il faut bien voir que, par exemple, après la guerre de 1870, ou un petit peu avant et un petit peu après, les Français et les Allemands se balançaient César à la tête. César avait dit que les Gaulois, son sens à lui, étaient assimilables, alors que les Germains ne l'étaient pas. Donc vous êtes des sauvages et nous sommes déjà des gens civilisés. Et en revanche, les Allemands disaient, mais non, pas du tout, vous êtes des collabos, alors que nous, les Germains, sommes des purs. Enfin, on n'imagine pas la violence, mais y compris entre gens sérieux, très cultivés, érudits.
Entre Camille Julian, d'un côté, par exemple, et Mommsen de l'autre, les grands historiens de l'Antiquité, d'un côté les Allemands et de l'autre côté les Français.
Voilà. Et d'autre part, l'autre message... puisque on parlera inévitablement, enfin vous parlerez inévitablement de la conquête de la Gaule. L'autre message était, heureusement, d'une certaine manière, qu'on a perdu. C'est-à-dire, les Gaulois, on a besoin qu'ils soient civilisés. Sinon, nous-mêmes, nous ne serions pas passés dans un monde où règne l'ordre, la paix et les lois. Hein ? Donc, ils étaient courageux, ils avaient toutes sortes de qualités, mais quand même, c'est bien que Rome ait gagné. Mmh. Et qu'est-ce que nous faisons d'autre ?
Bien sûr.
Hein ? Aux petits Africains, aux petits Asiatiques, etc. On apporte le progrès, on apporte la civilisation.
Donc, dans une sorte de logique dont il est difficile de se détacher.
Extrêmement difficile.
Alors, vous ferez partie de ceux qui, justement, dans les années 60, en décidant ouvertement, après votre passage à l'école de Rome, Christian Goudineau, d'avoir une chaire consacrée aux antiquités nationales, à l'Université de Provence d'abord, et puis ensuite au Collège de France, chaire que vous occuperez au Collège de France à partir de 1984, de reprendre toute cette question-là et de vous dire d'abord, la chaire des antiquités nationales, c'est la chaire de Camille Julian, c'est la chaire de celui qui, d'une certaine façon, nous a aussi donné des images à voir qui ont été ensuite reprises par Lavis et par d'autres dans nos manuels autour de cette histoire de la Gaule et des Romains. Il faut la reprendre et décider qu'à partir de là, on va faire un travail scientifique, un véritable travail de décapage, pourrait-on dire, de ces couches qui nous empêchent de voir vraiment ce qu'étaient les Gaulois, Christian Goudineau.
Oui, c'est tout à fait ça. Mais j'ajouterais quand même une chose. Ça a paru un peu ringard à mon époque.
Reprendre ce reprendre titre des Antiquités titre, nationales pourquoi en 68 à l'Université de Provence, par exemple.
Oui, non, c'était après 68.
Un peu après 68, quoi.
Mais peu importe, et surtout au Collège de France. Pourquoi ? Eh bien, parce que Camille Julian s'était battu pour qu'il y ait enfin une chaire consacrée à l'histoire de la Gaule quelque part. Il n'y en avait dans aucune université.
Parce qu'il faut imaginer le monde de la fin du 19e siècle.
Ce qui comptait, c'est Rome.
Tellement pris
c'est la Grèce.
Dans l'idée de Rome.
C'est l'Afrique.
C'est effectivement
bien sûr.
On ne peut pas parler.
Mais la Gaule, c'était méprisable. Ouais. Hein, méprisable. Bon, donc Camille Julian obtient, et c'est intéressant de voir qui était son concurrent, c'était Durkheim. À une voix près.
L'inventeur de la sociologie
française. L'inventeur
de
la sociologie. Non. Il obtient cette chaire d'Antiquité nationale, qui après va évoluer et qui, lorsque Paul-Marie Duval, qu'on peut considérer comme un des successeurs de Julian, l'occupait, s'appelait Histoire de la Gaule, tout simplement. Pas Antiquité. Alors moi, je vais vous prendre Antiquité nationale, pourquoi ? Eh bien, pour taper une deuxième fois sur la table, un peu comme Camille Julian, en disant, on est en train de foutre en l'air tout notre patrimoine, et notre patrimoine national. On n'a pas de loi prévoyant que les grands travaux seront précédés par
des fouilles archéologiques.
Voilà, c'était une espèce de pétition de principe, grâce à des gens comme Jacques Lang, on a essayé de monter une mécanique, mais les oppositions ont été telles qu'il a fallu attendre 2001 pour qu'on ait enfin une loi sur l'archéologie préventive et puis des instruments comme
l'INRAP en particulier, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive.
Donc vous voyez, Antiquité Nationale, c'est...
C'était un acte politique.
C'est un acte politique,
mais qui tient compte aussi du profond renouvellement de la problématique autour de cette question du passé national sur le territoire, donc de ce qu'on a appelé la Gaule. Alors, venons-en justement à ce renouvellement avec vous, Christian Goudineau. D'abord, vous dites, dès ce moment-là, dès le début des années 80, le milieu des années 80, vous dites... La Gaule, ça n'est pas la Gaule. En tout cas, on ne peut pas parler de Gaule. Il faut là aussi commencer à nous laver le regard. Il n'y a pas de différence majeure, de différence notable entre ce territoire qu'on appelle la Gaule et puis les territoires voisins en allant vers le centre de l'Europe en particulier jusqu'à la Hongrie.
Oui, alors, bon, c'est une discussion extrêmement compliquée que je suis obligé de simplifier. Disons que depuis l'Atlantique jusqu'à Budapest, à peu près, il y avait des peuples, une centaine, peut-être 120, qu'on ne sait pas toujours nommer. À certaines époques, c'était des toutes petites entités, et il y en avait infiniment plus. Et puis à l'époque où nous commençons à bien connaître les choses grâce à Posidonios et à César...
Donc deuxième, premier siècle avant Jésus-Christ,
il y a ce que... On peut appeler des espèces d'États dont les plus grands couvrent 3 à 4 de nos départements, hein, quelque chose comme ça, et les plus petits, la moitié d'un. Bon, donc, c'est une mosaïque. C'est une mosaïque, chaque État étant indépendant. Mais bien sûr, toutes sortes de réseaux secrets, ce sont des réseaux d'alliances, ce sont aussi le fait que le plus puissant contrôle... un peu plus faible, ce sont des mariages, ce sont des contrats économiques. Bon. Donc, une mosaïque, mais une mosaïque qui a tissé un certain nombre de liens. C'est le premier point. Alors, là-dedans, pourquoi identifier un ensemble qui s'appelle Gaule? Eh bien, qui va le faire? C'est Jules César. Jules César va se conduire comme beaucoup de conquérants. C'est-à-dire qu'une fois une conquête achevée, quand tu considères que c'est à peu près homogène, il dit voilà, ça s'appelle la Gaule. Alors qu'avant lui, et d'ailleurs les géographes antiques après César vont être dans un embarras constant, parce qu'ils ils savent plus entre la Gaule, la Celtique, alors ils vont faire des contorsions absolument épouvantables, parce que le dieu César a forcément raison. Il a dit que ça s'arrêtait au Rhin, bon ça s'arrête au Rhin. Alors, comment nommer ceux qui sont de l'autre côté du Rhin? On ne sait pas trop. Alors, on va dire les Germains. Et un géographe comme Strabon dit, on les appelle Germains, mais ils sont vraiment exactement comme ceux qui sont de l'autre côté du Rhin. Bon, enfin, vous voyez, cette espèce de révolution, comme l'UOT a dit, ceci est le Maroc, ouais. Ou comme Savornien au hasard, voilà, c'est je sais pas quoi, le Congo,
c'est le Congo,
etc. Ou comme on a fait les frontières totalement artificielles qui ont causé tant de malheurs, aussi bien d'ailleurs en Europe qu'à l'extérieur. Bon, alors il y a ça. Et puis il y a un deuxième phénomène sur lequel on ne saurait trop insister, c'est qu'on a eu la conception que la Gaule était une espèce d'entité farouchement repliée sur elle-même, sans contact pratiquement avec l'extérieur, alors qu'à l'époque qui nous intéresse, rien n'est plus faux. Il suffit
c'est
de lire
mobilité.
César lui-même. Non, il y avait, alors, outre les problèmes de migration qui se sont produites jusqu'en Asie mineure, mais notamment sur le nord de l'Italie. Outre ce fait, il y a le fait que les peuples au IIe et IIe siècle avant Jésus-Christ ont une politique extérieure. les plus grands peuples.
Les Éduins ont par exemple un ambassadeur à Rome.
Mais sûrement.
Des ordres d'ambassadeurs à Rome.
Mais sûrement. Ce sont des alliances qui se sont faites pour les Éduins. On peut imaginer au début du IIe siècle avant Jésus-Christ. Ou en tout cas, c'était fait au milieu. Mmh. Bon, alors, ça veut dire quoi ? Ils sont déclarés même frères du même sang.
Avec les Romains, ce qui est rare.
Avec les Romains. Ça veut dire, vous y reviendrez d'ailleurs, je suppose, en parlant du XVIe siècle, ça veut dire qu'il y a une légende troyenne qui les réunit.
Oui.
Hein ? Et que donc, le Sénat de Rome a accepté, et puis le Sénat éduin a sans doute imaginé peut-être lui-même, des liens remontant au siège de Troie, ou en tout cas à l'époque d'Énée. Bon, ce sont des choses absolument fantastiques. Alors, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire, évidemment...
Ça veut dire culture.
Ça veut dire
connaissance mutuelle. Ça veut dire échange.
Ça veut dire
commerce.
Cadeau,
ça veut dire cadeau, etc.
Et tout, bien sûr. Alors, notre idée que la petite Gaule a été en butte aux horribles légions césariennes, rien de plus faux. Il faut voir que parmi les peuples, la soixantaine de peuples dont on a parlé, qui constitue la Gaule, maintenant on va dire au sens césarien.
Bon, donc jusqu'au Rhin,
jusqu'au Rhin.
Avec la Belgique, etc.
Et les plus puissants ont été, 6 années sur 7, les alliés de César.
Et c'est donc seulement la dernière année qu'ils se sont
Il y a eu l'insurrection générale, pour des raisons sur lesquelles on pourra en revenir, si vous voulez.
Alors, donc, il y a cette dimension géographique qui est extrêmement importante quand on parle de cette question-là. Puis, il y a une dimension qui tient à la profondeur du temps. On a l'impression, d'une certaine façon, qu'on a rabattu des siècles d'histoire, donc, parce qu'évidemment, la documentation manquait, sur, mettons, les 50 ou 100 dernières années avant la conquête romaine, et que tout cela, c'est la même chose, que ça a été effectivement une sorte de compression rapide, comme ça, dans quelques décennies, d'une histoire beaucoup plus longue, dont on a les premières traces, mettons, au 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est cela, Christian Goudineau ?
Oui, si on fait une distinction entre l'âge du bronze, l'âge du fer, enfin, des distinctions classiques de l'archéologie, en réalité, le vrai problème, ce serait de savoir quand est-ce qu'un fond de population qu'on appellera celtique, bon, par commodité, s'est vraiment installé au centre de l'Europe et en diffusant jusqu'à l'Atlantique.
Et donc, ça,
c'est très très difficile à dire, faute de texte bien entendu, et puis parce que les crises laissent rarement des vestiges qui soient concrets. On peut avoir un énorme incendie, là on le voit, mais des crises sociales, des crises économiques, des crises climatiques, on ne sait pas trop. Bon, aujourd'hui, on dirait sans doute que ce peuplement qui va conduire aux Gaulois est en place essentiellement aux alentours de 1200 ou 1000 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Alors on peut le retracer grâce essentiellement à des coutumes funéraires, voire éventuellement à une succession d'habitats, de petites fermes, enfin, je ne dirais pas d'agglomérations encore. Les agglomérations, c'est un autre problème, beaucoup plus difficile. Bon, alors effectivement, quand on n'a pas les données de l'archéologie, et on en avait très peu, on comprime tout ça. Alors, pour faire comprendre, lorsque on part de texte, c'est-à-dire qu'on a une culture classique, qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? On a tendance à illustrer les textes.
Donc on part du texte et on essaye de trouver, soit dans l'archéologie, soit dans les données de l'épigraphie, soit dans des données tangibles d'une certaine façon, de faire coller ce qu'on trouve et avec les textes que l'on a au départ.
C'est un processus qui n'est pas un processus dévoyé. C'est le processus qu'on a instinctivement dans la tête. Alors, tout ce qui a changé avec les grands travaux, c'est que c'est plus l'historien ou l'archéologue qui décide. C'est-à-dire que ce qu'il serait allé chercher avec les textes rôdant au fond de sa mémoire, là, c'est tout à fait autre chose. On crée une autoroute, on crée une ligne de chemin de fer, on fait un détournement, on va creuser des parkings souterrains dans une ville, et on tombe sur des choses qu'on n'aurait pas imaginées.
Et on remet à jour, d'une certaine façon, un passé qu'on n'aurait jamais imaginé autrement.
Bien sûr, bien sûr.
Et à partir de là, il faut donc repenser de façon différente tout ce passé-là. C'est-à-dire qu'à la fois, on lui donne une dimension chronologique bien plus longue, on lui donne une dimension géographique bien plus large, d'une certaine façon. Et donc, on repense et le temps et l'espace, Christian Goudineau.
Le temps et l'espace, tout à fait. Et j'ajouterais que ces grands travaux, dans la mesure où ils génèrent toute une activité, dans la mesure où aussi ils génèrent des facilités économiques que les archéologues n'avaient jamais eues, ont permis de développer des recherches de type technique, méthodologique ou scientifique qu'on n'avait jamais pu lancer auparavant.
Lesquels, par
exemple ? On aurait souhaité. Par exemple, on va voir des spécialistes qui vont étudier les restes des graines, des spectres polliniques.
La dendrochronologie.
Bref, tout ce qui tient à l'analyse physique d'une part, pour les techniques de datation.
L'archéozoologie également,
et
les os des animaux.
Tout ce qui tient à l'environnement, à l'alimentation. Donc à la vie quotidienne, des pans entiers que nous ignorions.
Alors justement, si on se rapproche justement de cette description que l'on veut faire avec vous en ouverture de cette semaine consacrée à l'histoire des Gaulois et de leur représentation de cette vie quotidienne, est-ce qu'on peut prendre quelques secteurs justement de ce qu'on pourrait imaginer être la vie quotidienne dans cet espace qu'on nomme la Gaule mais qui n'est pas la Gaule, on l'a compris avec vous Christian Goudineau, entre le 2e et le 1er siècle avant Jésus-Christ.
Alors attendez, moi je vais d'abord vous dire les deux choses qui ont véritablement compté avant même l'archéologie de sauvetage.
Allez-y.
La première, c'est l'archéologie aérienne.
Donc le survol des territoires.
Le survol des territoires.
Et on comprend assez vite, en particulier au moment de maturité des cultures, qu'il y a des différences au printemps, par exemple, qu'il y a des différences entre tel ou tel coloris de terre. Et on comprend à partir de ce moment-là qu'il y a soit des trous de poteaux, soit des restes d'habitations sous tel ou tel champ qui a disparu.
Donc des habitations, des sanctuaires. C'est-à-dire que pour la première fois, il faut reconnaître le génie de deux ou trois personnages, notamment Roger Agache,
avec ses
tout petits avions, a fait ses observations.
Les années 60 ?
Oui, c'est les années 60. Mais il faut bien comprendre que beaucoup de gens n'y croyaient pas. On lui disait, mais qu'est-ce que c'est que ces photos ? C'est pas possible, vous avez truqué. Hallucinant. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu évidemment une pratique on ne peut plus courante. Et à partir de là, on pouvait déjà commencer à faire des atlas. Et on s'est aperçu que l'occupation rurale, aussi bien à l'époque romaine, mais qu'on l'a vu à l'époque gauloise, puisqu'il y a souvent une succession, était infiniment plus dense que l'on imaginait.
Ça
la
n'était
petite
pas
Gaule
un
couverte
de forêt voilà,
stupide.
Voilà.
Et la palynologie, ensuite, le démontrera.
Bon,
ça, c'était un premier point.
Très important. Enfin,
très important. C'est-à-dire, le Gaulois qui passe son temps à faire la guerre, non.
Et à chasser les sangliers,
non.
Voilà.
Bon. Alors, on peut ajouter, effectivement, puisque vous parlez des sangliers, que l'étude des ossements que l'on retrouve dans les fouilles, des ossements animaux, montre que le Gaulois, il mangeait du cochon et le sanglier, c'était une part absolument, absolument minuscule. Bon, passons là-dessus. Le deuxième point qui a beaucoup compté, alors c'est peut-être un tout petit peu plus tard, mais enfin, on est encore dans les années 60-70, c'est l'archéologie sous-marine. C'est-à-dire la fouille méthodique d'épaves.
Et en particulier d'épaves romaines qui sont aux alentours du territoire gaulois.
Enfin, oui, qui se trouvent sur les rives de Méditerranée et du Languedoc. Quand on trouve une épave, c'est pas parce qu'il reste du bois, etc. C'est parce qu'elle avait une cargaison d'amphores. Sinon, la plupart du temps, tout disparaît. Donc ce sont les tas d'amphores qui font découvrir les épaves. Et on s'est aperçu donc que depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est à peu près les premières épaves, jusqu'à l'époque moderne, il y a un pic. Un pic dans le nombre des naufrages, et donc qui est représentatif du nombre des transports. Et ce pic, c'est à peu près entre les années 150 et 50 ou 30 avant Jésus-Christ. À partir de là, on a pu se rendre compte qu'il s'agissait de vin italien qui inondait littéralement la Gaule,
le marché,
bref,
le marché gaulois.
Le marché gaulois. Mais à ce point que certains collègues, faisant des calculs, évidemment, pour donner un ordre d'idée, ont montré qu'il y avait chaque année entre 500 000 et 1 million d'amphores contenant chacune à peu près 25 litres de vin qui arrivaient. Alors là encore, la petite Gaule repliée sur elle-même, elle en prenait un sacré coup.
Oui.
Parce que...
C'est un lieu d'échange, de transport, d'économie.
Oui, bien sûr. Et contre quoi? Et contre quoi ces amphores? Ah, il fallait se poser la question. Là, il y a quelques textes.
La vieille route de l'étain?
Alors, la vieille route de l'étain, sans doute, oui, des métaux, peut-être quelques produits agricoles, des peaux, des voiles, des trucs comme ça. Mais l'essentiel, et on le voit bien chez César et d'autres, les esclaves. Les esclaves. Alors, ce qui amène à réfléchir sur la société en question. Hein, c'est-à-dire, un certain grand peuple, sans doute, devait faire des razzias, parce que les criminels de guerre, c'est vite épongé, si j'ose dire. Hein. Et alors, razzia, où? Chez qui? Mais c'est des milliers, chaque année.
Un esclavage nord-sud, et non plus sud-nord, comme beaucoup
bien
plus
sûr.
Tard on l'imagine. Là,
bien
donc,
sûr.
On transporte ces esclaves à Rome, justement, en particulier, parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, et
tout
que cette
fait.
Main-d'œuvre, ben, on vient la chercher, justement, du côté de ces territoires dits gaulois.
Et n'oublions pas que César avait à côté de lui, lors de ses expéditions en Gaule, les représentants d'énormes firmes. Certains sont capables d'acheter 53 000 atuatucs qu'ils décident de faire prisonniers et de réduire en esclavage et de les convoyer vers Rome, ce qui n'est pas rien.
Effectivement.
Bon, alors donc, là aussi, vous voyez, il y avait ce cheminement, la Gaule agricole, en grande partie, et puis aussi...
Les échanges.
La Gaule échangeant avec le monde méditerranéen, ce qui accentuait, disons, les réflexions de type politique dont on a parlé précédemment.
Alors, ça veut dire que lorsqu'on réfléchit au territoire, on n'y réfléchit pas du tout de la même façon, Christian Goudineau, dans les années 1970-1980, quand, avec d'autres, vous lancez tout un tas d'études sur ce territoire gaulois. On n'y réfléchit pas de la même façon. On cherche à la fois des lieux de centralité, des lieux de pouvoir, des lieux d'échange, des lieux de marché. Et on va commencer à réfléchir aux routes qui permettent d'aller de cité en cité et non plus simplement à un vaste territoire vierge dans lequel il n'y aurait que deux ou trois grandes villes qui seraient comme cela perdues au milieu de nulle part, Christian Goudineau.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, on va se pencher sur les questions, en gros, d'organisation du territoire.
Et l'organisation du territoire veut dire organisation sociale, organisation culturelle,
bien
organisation
sûr.
Politique.
Oui, religieuse également. Et l'archéologie de sauvetage, finalement, qu'est-ce qu'elle nous montre? Alors, elle nous montre un certain nombre de parcellaires. Elle nous indique comment peuvent être réparties les exploitations agricoles. Et elle nous montre aussi une hiérarchie. Depuis la toute petite ferme jusqu'à une résidence beaucoup plus imposante,
cossue,
beaucoup plus cossue, et qui représente véritablement, vraisemblablement, la résidence d'un aristocrate, d'un chef. Hein, c'est toujours difficile d'employer des mots précis. D'un princeps, dirait peut-être César.
César.
Bon, et puis, au niveau supérieur de la hiérarchie, on découvre, pour cette époque-là, ce que, dans notre jargon, on appelle les oppidas, parce que César emploie ce terme, qui est un terme neutre, qui veut dire les établissements, les agglomérations, les grandes agglomérations. Et là aussi, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne pensait, et surtout qu'ils témoignent d'une organisation politique et sociale tout à fait différente des schémas qu'on avait dans la tête. Le schéma qu'on avait dans la tête, c'était un grand ouvrage de défense, avec pour la Gaule centrale 100-150 hectares, quelques petits artisanats, en cas de coup dur, les gens s'y réfugiaient, une place peut-être publique pour que l'on puisse tenir des assemblées.
Il y a un marché.
Même pas voter, puis des marchés périodiques, quelque chose comme ça, mais de relativement relativement vide, clairsemé. Or, par exemple, les fouilles qui ont été menées au Mont Beuvray, à Bibracte, la grande capitale des Éduins, témoignent d'une urbanisation qui...
Complexe.
On ne pouvait pas... on n'imaginait pas que ces espèces de barbares puissent avoir quelque chose qui ressemblerait à des villes. Pourquoi ? Parce que les bâtiments en bois ne laissaient pas de traces, ou plus exactement, on n'apprenait pas à les connaître. Moi, quand j'étais jeune, on ne connaissait que la pierre, éventuellement la brique crue. Bon, mais c'est tout. Et dans les découvertes les plus récentes de ces dernières années, à Bibracte même, qu'est-ce qu'on trouve à l'époque césarienne ? Un forum. Un forum de type italien, comme on en trouverait en Italie centrale, avec une basilique, etc. Et puis tout autour, des maisons tout à fait différentes de celles qu'on trouverait à Pompéi ou à Rome. Donc des processus, comment dire, de mélange d'acculturation, mais aussi d'urbanisation, très, très complexe, qu'on commence à entrevoir.
Et ça veut dire que l'historiographie de l'Antiquité, et de la Gaule en particulier, Christian Gonineau, n'est pas étrangère aux grandes évolutions, pourrait-on dire, du reste de l'historiographie. C'est-à-dire que, au moment même où des contemporanéistes ou des modernistes travaillent sur la notion de transfert culturel, c'est-à-dire de ces échanges culturels qui ne sont pas simplement l'imposition d'un modèle sur un peuple reçoit ce modèle et qui ne discute pas ou qui peut résister, mais qui ne résiste pas longtemps, vous adaptez cette idée même de transfert culturel, d'acculturation, en disant il y a des échanges, ça va dans un sens, mais ça va aussi dans l'autre. Et ça montre bien qu'effectivement, cette Gaule de 150 ou de 100 avant Jésus-Christ, elle est beaucoup plus ouverte au monde qu'on ne l'a jamais imaginé. Cela grâce aux archives que vous trouvez dans le sol, grâce à ces nouvelles façons de questionner le passé, Christian Gonineau.
Bien sûr, mais on va donner un exemple extrêmement précis. L'archéozoologie nous a montré que depuis la domestication néolithique, les espèces animales courantes, celles qui faisaient l'objet d'élevage, n'ont cessé de rapetisser. Alors, je ne sais pas si c'est pour une question de gestion du cheptel, etc., mais par rapport à l'animal sauvage, je dirais, l'animal domestique devient de plus en plus petit. Et les chevaux que l'on retrouve normalement dans les fouilles, sont des chevaux relativement petits à l'époque gauloise. Ce qu'on appellerait, nous, des doubles poneys. Bon, vous voyez, c'est pas très grand. On sait d'ailleurs, par les textes, que les grands guerriers essayaient de se procurer des chevaux qui venaient de l'étranger. Parce que combattre avec une cuirasse sur un double poney, bon, c'est pas terrible, terrible. Mais voilà que des fouilles nous ont montré, parmi les restes alimentaires, eh bien, des chevaux de grande taille, de type romain. Et pas seulement ça. À côté, on peut avoir des amphores. À côté, on peut avoir du matériel métallique. Et même, on a trouvé, dans une fouille à Besançon, un étalon en bronze, qui représente un pied romain. C'est-à-dire l'équivalent de 30 cm, avec toutes les graduations.
Et cela de quelle époque à peu près ?
70 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant la conquête. Oui. Et les indices s'accumulant, on peut même se demander s'il n'y avait pas eu, avant la conquête, une présence romaine qui aurait été pas seulement celle de commerçants, mais celle de fermiers, d'agriculteurs. Ce qui, là encore, changerait considérablement notre vision des choses.
Par exemple, dans cette Gaule transalpine du sud de la... De ce
qui ah ben là, c'était fait, puisque de toute façon... Fait,
mais même déjà très
oui,
tôt...
Depuis là.
C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où Rome conquiert l'Espagne, il faut bien un lieu de passage, et donc ce lieu de passage, déjà, va être tout ce sud de la France, le Languedoc et la région marseillaise, qui était déjà alliée de Rome depuis très longtemps, tout ça va déjà être sous influence, et de là peut-être remonter plus haut. C'est ça qu'on peut dire, Christian Gonineau.
Bien sûr, c'est ça. Mais imaginez, par rapport à ce qu'on pensait il y a simplement 30 ans, qu'il puisse y avoir des espèces de colons, entre guillemets, italiens, qui viennent en Gaule indépendante, c'est une petite révolution. Et je vais vous citer un deuxième ou un troisième phénomène. Les numismates se sont aperçus qu'aux alentours de 120-80 avant Jésus-Christ, il s'est produit en certains endroits une véritable révolution. Alors que la Gaule fonctionnait avec des monnayages d'or et des petites divisions qui allaient jusqu'au bronze, eh bien, certains peuples passent à l'argent. Et l'argent, ils le traduisent en pièces qui font exactement la moitié d'un denier romain et qui correspondent à peu près aussi à une monnaie massaliote. Mmh. Bon, alors nous qui avons vécu les difficultés du passage à l'euro, qui avons vu combien il faut d'accords diplomatiques pour changer les monnaies, qui avons vu aussi tous les problèmes techniques que cela pouvait causer. Alors, imaginons ces peuples donc, qui, en suivant à peu près la vallée du Rhône, de la Saône, et puis toute la périphérie, mais en débordant largement vers l'ouest, ces peuples qui changent totalement leur système. Alors, ils le font pourquoi ? Alors, ils le font pas forcément pour que les monnaies soient échangeables. Il faut imaginer une zone dollar, mais parce qu'on peut compter. On compte avec le même langage.
On peut compter et on peut écrire aussi. Parce que tout compte fait, on a toujours pensé,
bien sûr,
depuis César, que les Gaulois n'écrivaient pas. Or, la trouvaille ou les trouvailles récentes de l'archéologie nous montrent que si, ils écrivaient sûrement. Enfin, ils écrivaient sûrement, mais sur bien quoi, sûr. Comment ? En tout cas, on a quelques témoignages de ces écritures-là. Et d'un seul coup, ça change complètement, là aussi, la vision d'une tradition simplement orale qui ne se serait transmise que par l'oralité et pas par l'écriture.
Mais comment voulez-vous qu'une organisation, y compris commerciale, aussi complexe, puisse marcher sans qu'il y ait des contrats ? Non, c'est pas possible. D'ailleurs, depuis toujours, on a trouvé, par exemple, ce qui reste, c'est sur des tablettes de plomb, par exemple. Mais bien sûr que l'essentiel devait être en cire, les tablettes de bois, donc avec la couche de cire, comme César nous dit en avoir trouvé lorsqu'il prend le camp des Helvètes.
Les Helvètes, voilà.
Il a trouvé le décompte complet de tous les migrants. Mmh. Avec leur nom, leur âge, leur nombre, leur tribu, etc. Bon, César nous parle bien des testaments. Donc, ça fonctionnait. La seule question, c'est que les textes sacrés, comme il est courant d'ailleurs dans certaines civilisations, ne devaient pas être couchés par écrit et ne devaient faire l'objet que d'une transmission orale. Mais il s'agit des textes sacrés.
Alors justement, ces textes sacrés, parce qu'évidemment, quand on pense Gaule, on pense druidisme, Christian Goudineau. Vous dites vous-même dans un de vos ouvrages que vous n'êtes pas très à l'aise avec ce milieu de la religion, cette compréhension de la religion, mais que néanmoins, il faut bien s'y coller quand on est historien de la Gaule. Et donc, on tente de s'y coller. Et comment, justement, pour pouvoir, là aussi, renouveler la vision qu'on a de cette religion, de ses pratiques, des pratiques funéraires qui accompagnent peut-être cette religion, etc., etc., Christian Goudineau.
Ben, c'est difficile. C'est très difficile pour plusieurs raisons. D'abord, l'archéologie de sauvetage ne nous a pas donné tellement de renseignements là-dessus. Il faut avoir le pot de tomber sur un temple, un sanctuaire. Bon, on en a. On a vu le rôle sans doute prédominant des offrandes guerrières. On a vu aussi le rôle politique que pouvaient tenir des sanctuaires. Certains sanctuaires, manifestement, sont des émetteurs de monnaie. Maintenant, quel était le fond de cette religion ? C'était un fond certainement savant, comme toute religion. Les druides étaient considérés, dans l'Antiquité, comme de très hauts personnages, comme d'excellents connaisseurs, notamment de l'astronomie et peut-être de l'astrologie.
Théologie fondée peut-être sur les astres, en tout cas.
Sûrement.
On peut le penser.
Oh ben comme la plupart des religions, religions de l'Antiquité.
Ce qui prouve là aussi les échanges, la capacité justement à faire migrer les savoirs liés à l'astronomie en particulier.
Bien sûr. C'est pas un hasard si on pense qu'il y a eu des relations entre les mouvements d'Euridique et les mouvements pythagoriciens, par exemple. Mais ça se traduit comment dans la vie de tous les jours? C'est beaucoup plus difficile à savoir. Quel est le type de dévotion, une fois qu'on a quitté les grandes sphères politiques, quel est le type de dévotion populaire? Bon, on a bien des petits ex-votos, on a des choses comme ça, mais difficile à dire, sauf à penser que ce fonds-là a subsisté durant l'époque gallo-romaine. Auquel cas, notre documentation
est un peu plus riche.
Ça croît notablement. Et bon, là, on peut avoir les traces d'une religion populaire. Alors, ce qui a été trouvé quand même, c'est un certain nombre de sanctuaires. De sanctuaires qui nous étonneraient d'une certaine manière parce qu'ils sont essentiellement faits en matériaux périssables. Parce qu'on y accroche des crânes humains, parce qu'on y accroche des dépouilles de bêtes, etc., etc.
Et donc là, la rêverie reprend d'une certaine
façon. Alors la rêverie reprend, mais non,
parce qu'on se met dans l'idée
que le sanctuaire antique, c'est le Parthénon avec des colonnes blanches. Bon, ce qui est aussi une déformation totale de la réalité. Il suffisait d'aller n'importe où en Grèce ou en Italie pour voir sans doute des arbres avec des tissus, des dépouilles, etc. Bon.
Mais alors, la rêverie reprend dans le sens où, effectivement, cette question des crânes, le funéraire, une vision aussi peut-être de massacres dont on ne sait s'ils se font sur des vivants ou sur des morts, tout cela commence à faire imaginer ou réimaginer un peuple barbare, sauvage, sanglant, qui n'hésite pas, effectivement, à sacrifier des humains dans sa religion.
D'une part, cela s'est fait dans toutes les religions antiques, y compris à Rome, où on a enterré vivants des Gaulois encore au IVe siècle avant Jésus-Christ. Bon, d'autre part, il faut bien distinguer entre des rituels qui sont des rituels de type guerrier. C'est des ennemis qu'on a battus, que l'on s'occupe et que l'on sacrifie éventuellement aux dieux, voire des criminels. Et puis, la notion de sacrifice humain, qui est tout à fait autre chose et qu'on ne saurait véritablement attester.
Alors ça, c'est donc l'aspect religieux, pourrait-on dire. On va peut-être terminer dans les quelques minutes qui nous restent sur ce qui reste de plus flagrant dans l'imagerie autour des Gaulois en particulier, c'est leur aspect extérieur, leur grandeur, leur pâleur, leur blancheur, leur caractère hirsute et leur pilosité en particulier. Tout cela, à nouveau frais, là aussi encore, l'archéologie, le travail lent et patient des historiens comme vous, Christian Goudineau, revient, tout ça, ça revient de façon différente sur le devant de la scène, parce que vous vous dites, attention, on a peut-être des façons de mieux comprendre à la fois ces textes et puis qui ils étaient véritablement.
Écoutez, la première constatation, c'est qu'une nouvelle fois, on se trouve en face de clichés traditionnels. On a toujours un voisin, généralement vers le nord, qui est plus grand, qui est plus long, etc. Pensez aux fantasmes que provoquent encore,
les Suédois.
Je vois votre œil s'allumer, les Suédoises.
Suédoises et Suédoises, bon. Selon son inclination sexuelle.
Alors, ce que donc les Italiens disaient des Gaulois, les Gaulois le disaient des Germains, et les Germains devaient le dire des Nordiques. Bon, en réalité, lorsque l'on fait, ce qui est un peu difficile parce qu'on incinère beaucoup à cette époque-là, mais enfin, lorsqu'on fait un peu de paléodémographie, comme on dit, on s'aperçoit que la population entre l'Italie et puis la Gaule n'était guère différente. Il devait être à peu près comme vous et moi, peut-être un peu plus petit. Mais là encore, c'est l'imaginaire qui s'est emparé de tout ça. Alors, hirsute. Là aussi, c'est le cliché du barbare. Alors, il pouvait très bien, effectivement, avoir des cheveux longs, pourquoi pas, et des moustaches, du moins pour certains. Mais on a des statues d'aristocrates.
Et des statues récemment trouvées pour certaines d'entre elles.
Oui, bien sûr. On a aussi les monnaies dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que sur ce monnayage d'argent, pour la première fois, il y a des magistrats. Et certains, d'ailleurs, donnant leur nom. Bon. Eh bien, on voit que non seulement ils ne sont pas moustachus et barbus, mais qu'ils ont une chevelure extrêmement élaborée. Il semblerait que... Alors, ce n'est pas seulement la mode.
Soignée.
Non, ce n'est pas seulement une question de mode, c'est sans doute des signes distinctifs qui pouvaient marquer un rang social ou peut-être l'appartenance à une famille. Bon. Je ne sais pas. Mais vous auriez rencontré un grand aristocrate gaulois dans la rue. Il est probable qu'il vous aurait frappé par un caractère très, très convenu, je dirais. Et que vous n'auriez pas dit, mon Dieu, quel pouilleux.
Est-ce que ça n'est pas difficile, Christian Gounineau, après vous être intéressé avec autant d'acharnement, de volonté, de volontarisme, pourrait-on dire même en tant qu'historien à cette histoire de la Gaule, de voir que malgré le travail de vous-même et des gens qui sont autour de vous, ceux que vous conviez d'ailleurs dans votre cours au Collège de France, au séminaire au Collège de France que vous continuez à faire encore cette année, donc pour la 25e année, Christian Gounineau, que malgré cela, eh bien, c'est vraiment difficile d'en finir avec les clichés, d'en finir avec les idées reçues. Et c'est quand même ça qui est assez frappant.
Oui, oui, non, mais c'est une des grandes peines de ma vie, je dois dire.
La difficulté de transmettre le savoir savant sur des questions aussi ancrées dans les mémoires.
Bien sûr. Alors, d'où vient le problème ? Le premier problème, à mon avis, c'est la difficulté d'opérer le passage vers les manuels scolaires. Alors, pour toutes sortes de raisons, à la fois de programmes, la Gaule n'est pas enseignée pratiquement. On ne parle de la Gaule que lorsque César a la bonté de venir la conquérir. Et toutes les découvertes de l'âge du bronze, de l'âge du fer, qui sont parmi les plus fantastiques, généralement, elles n'ont aucun écho dans les manuels scolaires.
Alors qu'elles racontent des histoires formidables.
Bien sûr. Mais ce n'est pas moi qui fais les programmes, malheureusement. Alors, c'est un premier point. La formation des enfants, c'est vital. Alors, le deuxième point, c'est un trait plus général de civilisation. Il faut sans doute que la profession apprenne à mieux s'adresser, à mieux utiliser les médias. C'est ce qu'on essaye de faire, mais ce n'est pas simple, parce que ce n'est pas un sujet qui intéresse forcément les médias. Je suis très content de voir que maintenant, cette année, en tout cas, il est plutôt à l'ordre du jour. Que
grâce à Astérix, nous sommes... qui a pourtant fait perdurer beaucoup les idées reçues.
Bien sûr, bien sûr. Mais Astérix, c'était de la part de Goscinny une volonté de se moquer des contemporains en utilisant des clichés qu'il savait être des clichés. Alors que ses successeurs, apparemment, n'ont pas forcément la même acuité historique et intellectuelle.
Merci Christian Gounineau. On enjoint nos auditeurs à vous rejoindre au Collège de France. Si les cours sont commencés ou commencent
oui,
bientôt
ils sont commencés.
Mais... Voilà. Et pour cette dernière année, ça sera votre dernière année.
Ah oui, bien sûr. Il faut bien s'arrêter un jour.
Et on les enjoint également à vous lire. Alors, le dossier Vercingétorix, avec ce caractère d'enquête qui est si formidable que vous mettez en œuvre à propos de personnages historiques, César et la Gaule, Regard sur la Gaule, plus récemment encore, qu'est-ce qu'on peut conseiller ?
Que reste-t-il de la Gaule, qui va paraître également chez Actes Sud, donc dans la collection Babel. La plupart de mes livres, disons, d'un peu de vulgarisation, sont chez Babel.
Et merci encore, Christian Gounineau, d'avoir accepté d'ouvrir cette semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux Gaulois et à leur représentation. On a tenté, avec vous, de dépoussiérer ces représentations et d'être au plus près de ce qu'on sait aujourd'hui, de ce qu'on peut savoir, de ce qu'étaient ces Gaulois. Merci encore. Demain, nous continuons cette semaine sur l'histoire des Gaulois en évoquant les Gaulois et leur renaissance, pourrait-on dire, dans l'imaginaire collectif au XVIe et XVIIe siècle. Et puis rappelons à nos auditeurs qui n'auraient pas suivi le début de l'émission que vendredi, nous consacrerons une émission spéciale à Pierre Chaunu après l'annonce de son décès ce week-end.